Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission RTV Sport. Nous sommes ensemble pendant 1h30 avec des invités de marque que je vous présenterai dans quelques instants. Mais avant tout, je vais présenter Alexandre. Salut Alex.
Salut Lionel, bonsoir à tous.
Ça va ?
Ça va, nickel, et toi ?
Bah écoute, impeccable. Je te donne un peu plus de travail aujourd'hui. Valérie n'est pas là, on la salue parce que je pense qu'elle nous écoute.
On la salue, et sachant qu'en plus moi je la verrai pas non plus la semaine prochaine, vu que je ne suis pas là.
Eh oui, tu pars en voyage scolaire.
C'est ça, je pars en Espagne.
En Espagne ?
Ouais.
Il va pouvoir amener des bouteilles. C'est ça les jeunes, les terminales. Par contre, Valérie n'est pas là, mais Bruno, il est là.
Salut Bruno. Au poste, salut, ça va.
Tu as bien la forme ?
Ouais, impeccable.
Parce que la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission.
Non.
Donc, week-end prolongé.
Exact.
Ça s'est bien passé ?
Ouais, impeccable.
Cool. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux disciplines. Tout d'abord, le motoball, avec le Motoball Club de Carpentras. Et je salue son président, Christophe Bartolo. Salut Christophe.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Tu vas bien ?
Très bien.
Bon, on va en parler dans quelques instants. Et en deuxième partie d'émission, on parlera de trail. T'as déjà fait du trail, Alex ?
Non, jamais.
Tu sais ce que c'est au moins ?
Oui, je crois. C'est tout ce qui est course. Non, c'est courir, non ?
Ah bah oui, ça c'est courir. Ça c'est vrai.
Courir.
Mais où ?
Dans la nature.
Bon, on verra. Ça sera... Tu réfléchis et on en parle tout à l'heure. Alors, pour en parler, on a des spécialistes quand même. On a tout d'abord Damien Russo, qui est photographe professionnel et qui a fait une excellente exposition photo. C'était il y a un an, je crois.
Non, c'était au mois de novembre.
Ah, c'était cette année. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadé que c'était l'année dernière, mais bon. Ça fait 6 mois.
Ça fait six mois.
Donc, tu fais également du trail, un petit peu. Hein, parce que pour suivre de grands champions, il faut courir un petit peu.
Exactement.
Et donc, tu connais bien le sujet. Et un autre champion, c'est Cédric Telaï. Vous êtes tous les deux membres d'organisation d'une course mythique qui regroupe énormément de coureurs maintenant et qui commence à être bien, bien connue. Elle se trouve donc à Malemort-du-Comtat et c'est la Gogaline.
Oui. Bonsoir Lionel, bonsoir tout le monde.
Ça va Cédric ?
Très bien, merci. Et toi ?
Écoute, super, je suis vraiment ravi de vous avoir tous les trois.
Merci.
Alexandre, avant de parler de tout ça, on va donner les résultats. Mais j'ai juste donné le premier résultat, ça concerne le motoball avec Christophe qui est avec nous. Il devait avoir un petit peu les mouchoirs parce qu'ils ont perdu. L'équipe première a perdu malheureusement contre Neuville, à Neuville. Donc ça limite un petit peu la déception quand même parce que Neuville est une bonne équipe.
Oui, 6-2. C'est une très bonne équipe. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été vainqueurs de la Coupe de France l'année dernière. Et voilà, on les a battus la saison passée. Cette année, évidemment, ils avaient préparé ce match. Et voilà, ça s'est passé différemment.
Et oui, contre les champions de France en titre de la discipline, il fallait bien justement se préparer. Neuville s'est bien préparé. Bon, 6-2. On y reviendra tout à l'heure. Mm-hmm. Mais il y a quand même eu un blessé, Boris Figoni, qui s'est blessé au métatarse.
Oui, c'était il y a 15 jours de ça.
C'était 15 jours.
Ouais, c'était contre Oulgat.
D'accord. Et donc là, la saison est foutue pour lui ?
Non. On espère qu'il reviendra assez vite.
Assez vite ?
Ouais, il y en a au moins pour 2 ou 3 mois, on va dire. Quand même.
L'autre équipe, parce que cette année, il y a une équipe de réserve, l'équipe B, jouée contre Bolen à domicile.
Oui.
Et ils ont fait le match nul.
C'est ça.
Avec un blessé, par contre.
Oui.
Également au métatarse. Ça, c'est la maladie des...
Non. On va dire que les blessures sont assez rares, mais cette année, pas que chez nous, un peu partout, on a beaucoup de blessés. Donc voilà.
Mathieu Donat qui s'est blessé, c'est le numéro 8, avec une fracture donc du 8e métatarse. Bon, on espère que du métatarse, donc on verra si lui aussi il a arrêté longtemps, tu sais pas.
On ne sait pas encore, un peu moins je pense.
Un peu moins ? C'est moins grave ?
Moins grave, oui.
Bon, voilà, donc les résultats, bien pour l'équipe B, moins bien pour Neuville, on y reviendra tout à l'heure justement, parce que le championnat ne fait que commencer.
Exactement, oui.
Ensuite, Alexandre.
Oui, alors il y a eu pas mal de résultats, enfin quelques-uns, ceux qu'on t'a envoyés, Lionel. Oui. On va commencer. Bah,
je remercie Valérie, parce que c'est Valérie qui les a envoyés.
Les associations envoient à Valérie et Valérie nous transmet.
Quand elle n'est pas là.
Quand elle n'est pas là. Alors, on va commencer avec l'ABC Carpentras. Donc, les U15 garçons se déplacent à Cavaillon et l'ont largement emporté 102 à 45. En U11 filles, Carpentras recevait l'USAP et s'est incliné 49 à 0. Les U11 garçons, Carpentras se déplaçaient à Morières et ils sont inclinés 33 à 15. Les U13 filles se déplaçaient à Nyons et sont inclinés 45 à 33. Les U13 garçons se déplaçaient à au Thor. C'est ça, c'est au Thor. Hein. Basket Thor, c'est le Thor.
Ah oui.
Si je ne me trompe pas.
T'as pas tort.
Et toi, tu sors. les U13 garçons se déplaçaient au Thor et sont imposés 66 à 37. Les U15 filles se déplaçaient à Isle-sur-la-Sorgue et sont assez lourdement inclinées 76 à 32. Les U15 garçons recevaient Rognonia et se sont imposés 114 à 39. Les U18 filles recevaient Sorgue et se sont imposées 69 à 29. Les U18 garçons se déplaçaient à Orange et Orange s'est imposé de justesse 70 à 64. En senior filles, Carpentras recevait Isle-sur-la-Sorgue et se sont imposés 64 à 23. Quant aux seniors garçons, ils recevaient Vitrolles et se sont imposés, ils sont inclinés contre Vitrolles 64 à 51.
Il y a eu de sacrés beaux points quand même. À mon avis, pour les spectateurs, ils ne se sont pas ennuyés. Hein.
Ouais, y a eu des...
Surtout le 114.
114-39.
Et ça, c'est l'ABC 43, bien sûr, qui l'a noté, c'est les U15 garçons. Ouais,
qui ont fait une belle prestation. On va continuer maintenant avec le Mazan Ventoux Conta Handball. Et la Nationale 2, l'équipe de Nationale 2 qui a perdu sur le parquet plutôt de Bron. Et 33 à 31.
Pas beaucoup, hein.
Non, pas beaucoup. Mais un début de match qui a été mauvais. Et malgré une bonne deuxième mi-temps et un niveau de jeu proche de ce qu'on avait vu face à Narbonne il y a quelques semaines. En pré-national, Mazan Sorgue recevait Foss et sont inclinés 26 à 24. En excellence territoire, Carpentras-Mazan l'emporte à Embrun sur le score de 24 à 18. En moins de 17, Élite, Toulon et Mazan-Sorgue font égalité 28 partout. En moins de 17, excellence régionale, Monteuse s'impose donc contre le Mazan, Ventoux Conta Handball. 49 à 31.
C'est pas évident à dire. Hein.
C'est pas évident.
C'est long.
C'est un nom à rallonge un peu. Donc même si on les aime beaucoup. Hein, mais
MVCH
MSHB. Voilà. MSHB, c'est ce qui a marqué. Ensuite, Mazan recevait Cadolive et sont inclinés 23 à 24. Les moins de 11 ans s'inclinent face à Perne 14-17 et face au Thor 17 à 6. L'équipe 2 des moins de 13 ans l'emporte face à Apt 28 à 15 et l'équipe 1 des moins de 13 est jouée aussi contre Apt et s'incline 17 à 6. Voilà, ça c'était pour le MSHB.
Ouais, tu vas y arriver un jour ou l'autre.
Je vais y arriver un jour. Hein.
Il va falloir que vous échangiez, Valérie et toi.
Ouais,
toi, tu donnes les résultats locaux et
non.
Valérie les nationaux.
Parce que justement, les nationaux, elle va avoir du mal après.
Ouais, non, mais je préfère. Surtout qu'en ce moment, comme rugby, clairement, que je soutiens,
justement, c'est ça
est
qui
est en train
bon,
de prendre la
tôle. Après.
Voilà, c'est
on
vrai
va en
que
après.
Valérie, elle est moins vindicative, moins méchante avec moi.
C'est vrai, mais ouais. Moi, je vais être beaucoup plus...
Voilà. Par contre, tu peux éventuellement, si tu veux, hein, si... donner les prochains rendez-vous
si
du Mazan Ventoux, comment ?
Du Mazan Ventoux Conta Handball.
Bien, tu vas y arriver.
Alors, la Nationale 2 jouera donc face à Antibes samedi à 20h. L'équipe de pré-national se déplacera samedi à 18h15 à Plan de Cuc. L'équipe d'excellence territoire Carpentras-Mazan aussi va recevoir Pérol ce samedi à 18h. Les moins de 18 ans féminines vont se déplacer à Mende samedi à 18h30. Et pour les moins de 17 élites, le club reçoit Marseille Nord à 17h45. Les moins de...
Attends, et oui, tu pensais que c'était fini.
Et oui, parce que surtout qu'il me montre la feuille avant l'émission. Avant que l'émission commence, il me montre qu'un côté de la feuille.
Ah oui, mais il y a un recto verso.
Il fallait me dire ça.
Ah oui.
Les moins de 17 ans, excellence régionale, donc les encore féminines, vont se déplacer à Port de Bouc samedi à 17h. Les moins de 15, excellence région, vont se déplacer à Marseille samedi à 4h30. Les moins
samedi
de...
4h30.
Oui, 4h30 d'après-midi.
Ah, d'après-midi.
Oui, ouais, je joue à 5h du matin, allez hop, à Marseille.
Ouais.
Les moins de 15 ans départementales se déplacent à Cavaillon samedi à 13h contre Sorgues. L'équipe 2 des moins de 15 ans va recevoir Ile sur la Sorgue samedi en ouverture à 14h30 au COSEC. Les moins de 13 se déplacent à Apt samedi à 13h. L'autre équipe des moins de 13 se déplace également à Apt, mais seront opposés à Avignon samedi à 13h. Les moins de 11 ans se déplacent au Thor pour affronter donc Veden et le Thor samedi à 14h. Et l'autre équipe des moins de 11 ans se déplace à Sorgue samedi à 13h30 pour jouer contre Lille sur la Sorgue et Sorgue. Les moins de 9 ans disputeront un plateau samedi à partir de 14h à Lille sur la Sorgue.
Tu veux y arriver ?
C'est ça. Et maintenant, on va parler du hand-fauteuil. Ils vont se déplacer à Manosque samedi après-midi pour l'équipe de hand-fauteuil. Du coup, au menu, divers ateliers et plusieurs démonstrations.
Super. Voilà. Donc ça, c'est les rendez-vous du week-end prochain.
C'est ça. Mais il y en aura un autre que je vais expliquer dans un instant.
D'accord. Il y avait du rugby à 13 ?
Et c'est là où j'en viens. Ah. L'équipe de Carpentras a donc joué. Alors, la fédérale jouait contre Val d'Orbieux et s'est imposée 34 à 22. Et donc l'équipe élite de Carpentras, l'équipe d'élite 2, recevait Salon. Et moi, je suis allé voir le match. C'est un super match où Carpentras l'a emporté 46 à 28.
Ouh, beau match.
Carpentras valide son ticket pour les demi-finales et va recevoir Villegaillenc à la Roseraie dimanche prochain.
Voilà. Donc, ils sont en demi-finale.
Ils sont en demi-finale. Ils ont validé leur billet avec une belle victoire. Il y a eu beaucoup de difficultés durant ce match, mais... Voilà, il y a eu beaucoup de maîtrise en fin de match. Ils ont bien assommé en fin de match et ça a suffi pour gagner. Donc félicitations
à eux. Et pour les phases finales, c'est en match aller-retour ou aller simple ?
Je crois que c'est aller simple. Je vais vérifier à la pause, mais.
D'accord.
Je vérifierai à la pause, je te dirai.
Ouais, tu me diras.
T'inquiète pas.
Parce qu'habituellement, Maître Capello, qui est Valérie, n'est pas là aujourd'hui. Donc il faut que je me rabatte.
Il faut un deuxième Maître Capello.
Ah, voilà.
Je suis là.
En plus, il parle de Maître Capello, je suis persuadé qu'il ne connaît même pas. Si maintenant il connaît parce qu'on lui a expliqué, mais il n'était pas né à l'époque.
Oui.
Bruno était né.
Tu devais pas être bien vieux toi non plus.
J'étais pas vieux mais j'ai connu, c'est sûr quand même. Je suis pas tout jeune. Hein. Allez.
On passe aux sports nationaux.
Bon, on fait une petite pause comme ça donne l'occasion de regarder.
Hein ouais.
Allez. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alexandre qui a joué au rugby à 13 pendant combien d'années ? Tu as combien de temps que tu joues au rugby ?
J'ai joué pendant 13 ans, mais il faut savoir que j'ai pas joué en élite du tout. J'ai 17 ans, donc c'est pas
possible.
Ouais,
d'accord, mais t'as joué un certain nombre d'années.
De ce que je me souviens, il y a des matchs aller-retour. Non, mais il y a des matchs aller-retour, mais je sais plus à quel stade. Donc je pense que là, c'est possible qu'il y en ait.
Le stade, c'est la Roseraie, mais après.
C'est encore une deuxième vanne pourrie en 10 minutes, félicitations.
Bon, mais en fait, t'as pas la réponse.
Non, j'ai pas la réponse parce que je suis allé sur le site de la fédération pour te dire et ils te mettent pas s'il y a des phases finales ou pas, ils te mettent juste les classements.
D'accord.
Voilà. Donc c'est pas très très pratique.
Si au cours de l'émission on trouve la réponse, on le donnera à nos auditeurs.
Tiendra informé.
Bien. Alors après, j'ai une autre question à te poser que tu dois connaître.
Oui.
Quand est-ce qu'on peut nous réécouter ?
Alors. On peut nous réécouter.
Ah oui, tu travailles aujourd'hui. Hein, Valérie n'est pas là. Il bosse. Hein.
Alors, on travaille le.
Enfin, il est pas payé pour rien.
Payé. On repasse le mercredi de 7h30. C'est ça ?
Je sais pas.
7h30 à 9h, si je me souviens bien. C'est ça, non ?
Franchement, j'en ai aucune idée. non, je sais qu'avant,
ça a été
changé. Oui.
C'est, voilà, ça a changé. C'est pour ça que là, j'ai le doute.
Donc, Valérie, si tu nous entends, tu peux nous envoyer un petit texto parce qu'on a un petit problème sur l'horaire.
Je crois que c'est 6h30.
C'est 6h30.
8h.
Ouais, c'est 6h30, 8h. Donc, sur le 102.2.
Ça parle un peu mieux, ouais.
6h30, 8h sur le 102.2. Et donc, le podcast sera le mercredi dans la journée sur la page Facebook RTVFM et sur le site internet www.rtvfm.net.
Ouais. Tous les deux, on fait la paire quand même.
On a été bon là sur ce coup-là.
On est à fond là. Bon, oui. Les résultats nationaux.
Oui.
On va commencer par le football.
Exactement, parce qu'on fait le meilleur pour la fin.
Oui. Hein, voilà. C'est ce qu'on dit souvent.
Exactement. Alors, on va commencer donc avec la Ligue 1. Paris fait un match un peu pourri à Saint-Etienne et a failli perdre. Et fait arracher le match nul sur le fil, un but partout. Monaco s'impose contre Nantes 2-1. Dans les autres matchs à retenir, Nice fait un partout contre Rennes. Lyon s'impose 5-0 à Metz. Et Marseille fait un triste 0-0 hier soir contre Montpellier. Au classement, Paris est premier, Monaco est deuxième, Lyon est troisième à égalité avec Marseille. Du coup, Lyon a recollé au classement. Et dans le bas de tableau, on retrouve 18e 3, 19e Lille et 20e Metz. Voilà, ça c'était pour la Ligue 1. On va passer donc maintenant au grand moment.
Mais t'as été très rapide pour la Ligue 1. Pourtant, on n'a pas donné trop de football. Il y a beaucoup de passionnés de foot.
Christophe, tu es
passionné de foot ou pas ?
Mm-hmm. Oui.
Ah ben voilà, il aurait bien aimé un peu plus.
Personnellement, moi j'ai pas trouvé que c'était une Ligue 1 fameuse ce week-end. Franchement, ce week-end c'était pas très très beau. À part peut-être le match de Lyon, ils ont gagné large, mais j'ai regardé un peu le match de Marseille.
Christophe n'est pas tout à fait d'accord.
Non, si, je suis d'accord.
Si. D'accord.
C'était une journée comparée à la
pas
semaine
passionnant.
Dernière, ouais. Comparée à la semaine dernière où c'était vraiment où ça envoyait. Là cette année, cette semaine c'était un peu mou.
Et le PSG ?
Paris, ils ont fait 1, je t'ai dit.
Bah oui, non mais.
Ouais, ils ont été mauvais. Ils ont été mauvais, ils ont leur attaquant qui a fait un raté incroyable. D'ailleurs, Paris, ils auraient peut-être trouvé leur nouvel entraîneur, d'après l'équipe.
Pourquoi ils s'en vont ?
Ils se sont fait éliminer contre le Real.
Oui.
Contre
mais ça y est, c'est officiel ?
Oui, c'est pas officiel, mais c'est sûr à 100% déjà. C'est déjà acté. Et d'après, pour l'instant, les rumeurs actuelles, ce serait l'entraîneur du Borussia Dortmund, grand club allemand. Qui s'appelle Thomas Tuchel, je crois, qui aurait déjà signé un contrat avec le club parisien. Donc, c'est pas sûr encore. On n'est pas sûr de ce qu'on dit là. Mais peut-être que c'est le nouvel entraîneur de Paris.
Alors, affaire à suivre.
Affaire à suivre. Et ce qui serait pour moi une
bonne chose ?
Non, pas une bêtise. Ah. Bah après, c'est Paris. Donc, dans tous les cas, moi, je les aime pas.
Non, mais vous avez vu un peu comment il est ? Je sais pas, Damien, tu suis un peu le football ?
Un petit peu, ouais, mais d'assez loin.
Assez loin, mais t'as pas une équipe préférée ?
Pas vraiment, non.
Non.
Non. Genre à la Coupe du Monde et tout ça.
Voilà, tu regardes les gros matchs.
Je suis pas d'équipe précisément.
Et toi, Cédric ?
La même pratique que Damien, c'est-à-dire les gros événements.
Oui, après le reste.
Après le reste, non.
Vous avez bien raison, le football vaut mieux le rugby.
Exactement.
Le rugby à 13, de préférence.
C'est plus compliqué à suivre. Hein.
C'est vrai, c'est plus compliqué, mais c'est plus beau à suivre.
C'est vrai.
Ensuite, on va passer au top 14.
T'as vu, Damien, les deux invités sont d'accord avec toi ?
Bah oui, mais c'est vrai. Le rugby...
Non, mais c'est important quand même de le préciser.
Mais bien sûr, mais moi, je vous garantis que vous mettez 200 personnes dans la même salle. Vous leur mettez d'abord un match, une mi-temps de rugby à 15, une mi-temps du rugby à 13. Tu veux leur demander ce qu'ils préfèrent. Je te garantis que les 80%, ils vont te dire le rugby à 13. Parce que la différence, c'est qu'ils ne vont pas s'ennuyer.
Mmh. Bon.
C'est tout.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre. On va passer au top 14 maintenant, au rugby à 15, et oui. Castres s'est imposé contre Toulouse.
On n'a plus le temps.
28 à 23, si on a le temps. Ah. Si on a le temps. On va le prendre le temps même. Tu vois, je vais bien prendre le temps pour vraiment avoir clairement jusqu'à la fin. Tu vois. Donc, Toulouse a perdu donc, contre Castres 28 à 23, met en poche le bonus défensif. Donc, c'est une bonne opération. Bordeaux-Bègles s'impose de justesse contre Pau 19 à 18. Lyon,
chaud, ouais.
Lyon s'impose de justesse à Brive 27 à 25. Agen s'impose largement, enfin assez largement contre Oyonnax 36 à 21.
Ouais, mais Oyonnax c'est fin du classement.
Ouais, bah voilà, c'est Oyonnax quoi. Montpellier a joué contre La Rochelle et s'est imposé 40 à 24. Ça, c'est
et
un
je
beau
crois
succès.
Que Montpellier est premier
oui,
pour l'instant.
Montpellier est premier, oui. Mm. Et le Racing s'est imposé 17 à 13 contre Toulon. Et ça,
c'est pas ton équipe préférée ?
Non, c'est Toulouse.
Ah, c'est Toulouse. Ça a changé.
Non, non, moi Toulouse depuis le début. Hein. Toulon, je les aime bien, mais quand il y avait Wilkinson.
Ah oui, bah
surtout
ça,
quand il y avait
ça
Wilkinson.
Fait un petit bout de temps qu'il a
ouais,
arrêté.
Ouais, je sais. Et enfin, parce qu'il y a une rencontre dont je n'ai pas parlé, parce qu'il fallait en parler pour la fin, pour
non,
Lionel. Pour Lionel, exprès pour lui.
Non, c'est non défendable. Là,
le Stade français, 12e du top 14, voilà. Affronté
sur 14,
Clermont.
Bien entendu, parce
sur 14, oui, voilà. Ouais. Sur 14, affronté Clermont, 10e.
Non. Bah non, Clermont.
Le Stade français, 12e,
ah oui,
affronté
oui.
Clermont, 10e.
C'est ça.
Clermont y allait avec des ambitions, et ben ils sont repartis sans rien, hein, parce qu'ils ont pris une. Ah si, ils sont repartis avec une belle valise quand même.
Ah ben
une
c'est,
belle
c'est
valise.
Plus de valise
50 à 13.
Ah non, mais c'est la valise d'enfer là.
Puis surtout que c'est quand même la troisième fois qu'ils prennent ce score en un mois, je crois.
Ah non, mais
ils prennent des 50 points quasiment tous les week-ends.
C'est catastrophique.
Au classement, Montpellier.
C'est non défendable.
Ah oui, mais c'est non défendable, mais c'est hyper drôle.
Ah oui.
C'est hyper drôle parce
bah
que.
Bah non.
Bah
non, ça fait pleurer.
Bah non, bah c'est drôle. Parce que ça prouve que cette année, ils ont fait vraiment n'importe quoi.
Une saison foutue, autant qu'elle soit foutue de A à Z. Au moins,
ah oui, c'est sûr.
Quand t'es au plancher, tu ne peux plus que monter.
Ah bah là, ils peuvent que monter maintenant. S'ils prennent 50 points tous les week-ends.
Là, ils prennent l'eau. Ouais.
Ils prennent l'eau. Ouais. Au classement, donc Montpellier est premier, le Racing deuxième. Toulouse est actuellement troisième au classement. Toulon quatrième. Cinquième, Pau et sixième, La Rochelle. À noter que La Rochelle est à égalité avec Lyon. Donc la bataille pour le top 6, elle va être très très rude parce que entre 60 et 70 points, il y a du 3e jusqu'à la 8e place. Donc il y a 5 équipes qui se disputent 3 places pour les phases finales.
Donc ça va être
assez
tendu.
Parce
que là, c'est bientôt les phases finales.
Oui, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs de top 14 pour assurer la qualification. Et après, on passera au barrage, aux demi-finales et à la grande finale.
Et au niveau des équipes qui descendent, il y en a combien qui descendent ?
Alors, des équipes qui descendent, il y en a deux. Et actuellement, c'est c'est Brive et Oyonnax qui sont 13e et 14e.
Par contre, Brive, je suis sur les fesses. Parce que Brive, c'est vrai que ça a toujours été une belle équipe qui s'est toujours maintenue, hein, même s'ils n'étaient pas...
Oui, ils étaient descendus.
Oui, ils étaient descendus, ils étaient remontés.
Ouais, il y a quelques temps. Et là, bon, bah, sauf si vraiment le Stade français coule et qu'eux, ils se remettent d'aplomb sur les derniers matchs et qu'ils fassent deux grosses victoires, je pense que c'est plié pour eux. Hein.
Ouais, mais là pour l'instant, ouais, c'est. En tout cas, moi, je suis content pour Montpellier. Messieurs, vous suivez un petit peu le rugby, même question que pour le football, Damien ?
Un petit peu, ouais.
Pareil, les grandes rencontres.
Pareil, ouais.
Tournoi de destination, t'as regardé un petit peu ?
Pas cette année, non.
Non, pas cette année ?
Non.
Pourtant, t'as raté de beaux matchs quand même.
Ouais, mais
on en avait parlé.
Il y en avait un.
Il y en avait un.
Le vrai
c'était
beau match.
Écosse contre Angleterre.
Ah, il était magique ce match.
Christophe ?
Pas du tout.
Pas du tout.
J'accroche pas avec le rugby du tout, du tout.
D'accord. Et Cédric ?
J'aime beaucoup les valeurs du rugby, mais pareil, ça reste une...
Voilà.
Dans la télé...
Ouais.
Oui.
Bon, ben vraiment, c'est l'occasion de regarder, parce que c'est vrai que nous, C'est vrai qu'on parle beaucoup de rugby parce qu'on aime bien ça.
Oui.
Mais après, c'est vrai qu'entre le rugby à 13 et le rugby à 15, pour moi, tout se vaut. Le meilleur, c'est le rugby à 7.
Ah, ça, c'est magique, ça. Bien sûr. D'ailleurs,
parce qu'ils sont sur un même terrain, pour ceux qui sont moins nombreux.
Pour les abonnés à Canal, franchement, si vous pouvez regarder, regardez, parce que c'est vraiment un pur régal. C'est rugby à 7, c'est incroyable. Les joueurs, la condition qu'ils ont. Et regardez l'équipe du Kenya aussi. L'équipe du Kenya au rugby à 7, elle est géniale.
Parce que le rugby à 7, messieurs, comme vous ne suivez pas trop, que moi je suis un petit peu grâce à Alexandre, hein, parce que bon, il nous apporte beaucoup de choses, Alexandre, c'est qu'en fait, c'est la seule discipline de rugby aux Jeux Olympiques.
Ouais, c'est la qui a été acceptée il y a quelques années, qui a commencé au dernier JO d'été.
Et Alexandre me dit, avant les Jeux, donc les derniers Jeux d'été, il me dit, va voir le rugby à 7. Je ne connaissais pas. Ah, j'étais voir le rugby à 7. Hein ? Mais ils sont bons partout.
Ah, mais c'est génial.
C'est des super coureurs. Quand vous regardez le rugby à 15, on voit le deuxième ligne, on sait comment il est. Hein, il fait plus de 2 mètres. Le talonneur, on sait comment il est. Il est aussi haut que large. Et etc. Le rugby à 13, bon, à part les premières lignes, on a du mal à les comparer. Et quand c'est le rugby à 7, c'est pire.
C'est encore pire. Parce que le rugby à 7, la différence, c'est que c'est exactement le même terrain. Mais sauf qu'il n'y a que 7 joueurs, quoi. Et du coup, bah, les 7 doivent être exactement pareils, quasiment.
Oui, parce qu'ils se remplacent. Et puis ça. Ensuite, bon, les phases de jeu sont plus courtes. Ouais, mais en même temps.
Demi-temps de 15 minutes, je crois. Soit c'est un match, c'est une demi-heure. Ouais. Par contre, sur les une demi-heure, tu fais des allers-retours. Ouais.
Mais ça se rapproche quand même un peu du rugby à 13. Il
hein.
n'y a pas de regroupement. C'est vraiment des.
Non, c'est que du 1 contre 1.
C'est des tenues ça, un petit peu. Donc, ouais, franchement, c'est bien à voir.
Ce qui est similaire avec le rugby à 13, c'est que c'est beaucoup de 1 contre 1. Et ce qui est la particularité même du rugby à 13 et donc du coup aussi du rugby à 7.
Mais c'est vrai que le rugby à 13, je revendique que c'est bien.
Ah, voilà.
Non,
on
c'est
est d'accord.
Vrai. C'est toujours en mouvement, il n'y a pas de recoupement, il n'y a pas de molles.
Ça bouge.
Si, il y a des mini-molles, mais il n'y a pas de gros molles comme on peut voir au rugby
à... On ne pousse pas comme des fous non plus.
Ben voilà. Bon, allez, on fait la pause et après on va faire du motoball.
Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, aurais-tu le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi.
on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, nous sommes de retour dans les studios de Carpentras-Serre avec bien entendu nos trois invités. Tout d'abord, Christophe Bartolo, président du club, le Motoball Club Carpentras. Rebonsoir Christophe.
Rebonsoir à tous. Oui.
Et pour la Gogaline, des membres du comité d'organisation, Damien Rousseau, qui est également photographe. Rebonsoir Damien.
Rebonsoir.
Et Cédric Telaï, donc également membre du comité d'organisation, mais coureur également, je crois. Hein.
Aussi un peu, oui.
T'as le statut du coureur. T'es pas comme nous, en fait. T'es assez sec, dynamique. Pas comme Alexandre, en fait.
Oh, bah, ça va.
Je dis que je suis pas dynamique.
Mais voilà, donc on parlera bien sûr avec vous deux des foulées de la Gogaline, qui auront lieu bientôt. Hein.
C'est le 22 avril.
Le 22 avril, donc oui. Ça se rapproche vite. Mais avant, on va parler de motoball avec Christophe Bartolo. Donc, on s'était vu il y a à peu près 2 mois pour parler justement de la saison passée. Champion de France en titre. Ça faisait combien de temps que ce n'était pas arrivé?
Jamais. C'était jamais arrivé, en fait, depuis la recréation du club en 90. Après, par contre, on avait eu la ville de Carpentras, le club du Racer à Carpentras avait eu plusieurs titres dans les années 50. Ce qu'il faut savoir que, comme j'ai déjà dit à l'antenne, le motoball sur Carpentras, c'est un sport historique qui existe depuis 1937-38 à l'époque, il y avait 2 clubs sur Carpentras, tout simplement, et plus de 4000 personnes qui venaient voir les matchs du Racer dans les années 50. Voir les oppositions Carpentras-Camaret, par exemple, au stade municipal, là où se situe maintenant le gymnase de Jean Moulin. Il y avait plus de 4000 personnes qui venaient voir dimanche après-midi.
Et à l'époque, pourquoi il y avait un tel enthousiasme, sachant que quand on vient ici, on découvre le motoball, mais c'est vrai que dans le nord de la France, dans le centre de la France, c'est pas forcément connu le motoball.
Il y avait plus de 60 équipes dans les années 50 autour de la France. Et il n'y avait surtout pas beaucoup de télévision et les gens ne restaient pas trop chez eux, ils sortaient le dimanche, tout simplement. Voilà.
Mais maintenant, il y a combien de clubs maintenant?
Il y a une vingtaine de clubs, grand maximum une vingtaine de clubs tout autour de la France.
Et le problème, qu'est-ce qui a fait que c'est descendu de 60 à...
Le coût.
Oui.
Le coût et le fait que ça crée des nuisances sonores, évidemment. Donc les deux réunis, mais c'est surtout le coût financier. Voilà.
Parce que sur le terrain, t'as combien de motos qui tournent?
Il te faut 8 motos, il te faut avec les remplaçants, il te faut 8 motos par équipe.
Ouais, donc 16 motos.
Donc nous on a 3 équipes, tu fais le compte, ça fait un peu plus de 20 motos.
À peu près 90-100 décibels.
Ouais, 106 décibels. 105.
C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un terrain assez isolé. Et je crois, Damien et Cédric, que vous connaissez le motoball ou pas?
Alors moi, je connais parce que j'étais à l'école à Carpentras-Serre. Du coup, je
tant qu'il entendait.
Ouais, j'entendais et puis j'étais allé voir une fois. Ouais. J'étais un peu curieux.
Et alors
moi, j'aime bien. Hein. Ouais, c'est cool. Hein. Moi, j'aime bien la moto et du coup, je trouvais ça pas mal. Ouais.
Et toi, Cédric?
Je ne connaissais pas du tout. C'est pour ça que pendant la pause, je posais la question, en fait, la taille du ballon.
Justement, s'il y a des auditeurs qui découvrent, alors la taille du ballon.
45 cm à peu près, 1 kg, entre 800 grammes et 1 kg 2.
Et on le pousse qu'avec les pieds?
Eh oui, bien sûr.
Non, parce qu'on peut le pousser. Bon, si on le pousse avec la tête, c'est un peu plus inquiétant.
C'est du football.
C'est
ça reste du football. Mais c'est que c'est une moto, ça reste du football. Donc, tu veux le pousser avec quoi d'autre?
Donc, pour Cédric aussi, la durée des matchs?
4 fois 20 minutes.
Et le fait d'avoir 20 minutes, c'est pourquoi ? C'est pour le plein ? C'est pour c'est très physique, donc il faut une grosse récupération ?
Non, les pauses, c'est 5 minutes. Hein. Ah. C'est juste 5 minutes. Le temps de réparer, remplir les carburants.
Mais la durée de 20 minutes, en fait, pourquoi c'est fixé à 20 minutes ?
Bah, parce que ça a toujours été comme ça.
Ils n'ont
jamais changé.
45 minutes ?
C'est vrai. Non, mais après, 20 minutes, ça peut être aussi le fait de. La durée du plein peut. Arrête de te foutre de moi.
Non, après, il faut des temps de 4 fois 20 minutes. Ça permet d'avoir un match qui est suffisamment étalé, que les machines ne souffrent pas trop, les hommes non plus, parce que en fait, c'est un sport qui est très physique, malgré tout. Aujourd'hui, on se rend compte que si on veut être à haut niveau, comme dans toutes les disciplines et au haut niveau national, on doit avoir un préparateur physique et on doit travailler toute l'année sur la préparation physique.
Et au niveau, justement, par rapport à... Oui, Cédric.
Oui, j'avais une question sur l'arbitrage.
Ça se fait comment ? Ce sont des arbitres officiels. Il y a deux arbitres de champ et deux arbitres de touche. Mais ce sont des arbitres officiels désignés par la fédération.
Ils sont sur moto aussi ?
Ah non, non, ils sont okay. À pied. Eux, ils courent.
Et par contre, justement, pour revenir sur les arbitres, ce sont des anciens joueurs ou...
Très peu. Ils sont souvent issus du foot. Et sinon, oui, il y en a un peu d'anciens joueurs, mais c'est très rare.
Et par
ce
contre,
qui est dommage d'ailleurs, à mon sens, mais bon.
Et est-ce qu'il y existe une école d'arbitrage pour le motoball ?
Pas encore. Mais depuis quelques années, il y a une volonté des clubs et de la fédération française de former les arbitres beaucoup plus. Donc ils sont beaucoup plus formés.
Alors comment on devient arbitre ? Parce que je ne sais plus dans quelle discipline sportive, on demande à chaque club plus ou moins d'avoir des arbitres de manière justement à pouvoir concourir en compétition. Et s'ils n'ont pas suffisamment d'arbitres, ils ne peuvent pas forcément faire toutes les compétitions. Oui. Est-ce qu'au motoball, c'est un petit peu le même style ? Et comment on devient arbitre ?
Au motoball, on y vient à ça, petit à petit. On est forcé un petit peu, chaque club, à présenter un arbitre pour compenser justement l'éventuel manque sur certains matchs.
Donc chez toi, tu as des arbitres ?
Oui, j'ai une arbitre.
Une
arbitre qui est arbitre de club, qui arbitre en junior et qui est arbitre officiel, donc qui peut être amené à arbitrer un autre match, évidemment, que match que l'on dispute nous.
Et là, tu parlais justement, ça m'amène à une autre question. Tu parles de une arbitre. C'est vrai que le motoball, on parle beaucoup au masculin. Est-ce qu'il existe du motoball au féminin ?
Non. Il y a certaines filles qui jouent au niveau junior, mais après, il y a rien qui le définit, par contre. C'est-à-dire que il peut très bien y avoir une fille dans une équipe, même en équipe élite 2 ou élite 1, mais ça, c'est pas...
Non. C'est-à-dire que dans cette discipline, on peut avoir des garçons, des filles, c'est mixte dans l'absolu.
Ça pourrait l'être, tout à fait. Il n'y a rien qui le stipule.
Et sinon, pourquoi il y a, comme au football, au rugby, il y a des équipes féminines ?
Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est encore un milieu qui est macho, tout simplement. Donc voilà, il faut être clair.
Non, c'est bien, il le reconnaît, c'est assez bien.
Voilà. Mais après, c'est aussi un sport qui est quand même exigeant. Et bon, voilà, il faut comme je reviens à la condition physique, il faut que la fille en question ou les filles en question aient vraiment une grosse condition physique. Il faut être armé, quoi.
Oui, d'autant plus que là, sur un mois, tu as eu quand même deux blessés.
C'est pour ça que je dis ça, oui.
Voilà, donc c'est vrai que parce que la tenue quand même du joueur est bien renforcée. Et ça ne les empêche pas justement d'avoir des blessures. Donc là, en l'occurrence, c'est les métatarses qui ont trinqué pour les deux. C'est souvent les blessures rencontrées. Bon, tu me disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de blessures, mais
c'est des niveaux récurrents. Plus récurrentes, c'est les pieds, c'est les genoux et les épaules.
Pourquoi les épaules ?
Et quand ils tombent.
Ah.
Donc voilà, c'est le plus récurrent, c'est ça.
Alors par contre, il y a aussi une particularité à Carpentras, c'est qu'en équipe de France, beaucoup de joueurs font partie de l'équipe de Carpentras. Beaucoup. Un certain nombre de joueurs, je crois que tu as le plus grand nombre de joueurs d'un club qui vont jouer en équipe de France. Tu en as trois en équipe de France 1, et ensuite tu en as un, je crois, en équipe de France junior.
Junior, oui. Oui, l'année dernière, on en avait trois sélectionnés, enfin trois qui ont fait partie de l'équipe de France. Et là, pour l'instant, cette année, on en a eu quatre... En élite 1, il y en a 4 qui vont faire partie de la présélection. Il n'y en aura très certainement que 2 de validés.
Et par rapport à ça, justement, c'est un avantage ou un inconvénient ?
Ça peut être les deux, comme dans tout. Non, c'est un gros avantage sportivement. Sportivement, c'est un gros avantage parce que ça fait progresser les jeunes. Voilà, ça les fait monter d'un cran. Après, à l'inverse, psychologiquement, il faut faire attention à la prise de tête, quoi. On a vite tendance à... Bon, c'est pas trop le cas des jeunes chez moi, mais on a vite tendance à prendre la grosse tête, quoi. Parce qu'on a fait partie de l'équipe de France.
Et donc on a du mal à mettre le casque.
Voilà. Donc c'est un peu toujours le risque. Il faut toujours tempérer par rapport à ça. Mais bon mes jeunes savent très bien que pour moi, le plus important, ça reste le club. Que ça, c'est un plus. Que c'est la petite cerise, la cerise sur le gâteau d'aller faire partie de l'équipe de France. Et que pour faire partie de l'équipe de France, il faut être déjà très bon en club.
En tout cas, c'est le cas. Parce que vous avez été donc champion de France... l'an dernier. Ben on fait la petite pause, hein, Bruno, c'est ça, et on en parle juste après. I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old and my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's the ghost I see. I'll be thinking about you, about you. It was almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old and my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, about you. I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio. Et juste avant la pause, on parlait du motoball de Carpentras. champion de France en titre de la catégorie, donc de l'élite 1. Il y a, il y a élite 1, élite 2, c'est ça ?
Élite 1, élite 2 et championnat junior, ouais.
Championnat junior. Donc champion de France, première fois depuis la, la nouvelle organisation du motoball. Ça vous a apporté quoi d'être devenu champion de France ?
Ça nous a apporté un peu de confiance, beaucoup de satisfaction personnelle. Et puis aussi le fait que là, cette année, sur la saison 2018, on est attendu de partout. Donc le challenge, il est encore, encore plus beau à aller relever. La preuve en est le résultat de samedi dernier.
Samedi dernier. Par contre, parce que je sais que souvent, il y a de beaux duels avec Monteux, par exemple, qui est un beau derby. Avant d'être champion de France, vous étiez à quel niveau au niveau du championnat ? Dans les premiers, dans les, au milieu du classement, dans les derniers ?
Non, on a toujours essayé de progresser. L'objectif de l'année dernière n'était pas clairement d'être au début de l'année. On ne s'imaginait pas qu'on allait être champion de France. On avait un objectif qui était bien moindre. Et voilà, on y est arrivé parce qu'on y a cru, parce que ça s'est enchaîné, parce qu'on a joué match après match, voilà, tout simplement. Mais on a toujours été positionné milieu de tableau ou dans, on va dire, dans les cinq premiers, de toute façon.
Et au niveau du bilan de, des matchs de l'an dernier, combien de matchs gagnés, combien de matchs perdus ?
En championnat, on n'a perdu aucun match. On avait fait que des victoires et des matchs nuls. On avait perdu simplement un match en demi-finale de Coupe de France contre Neuville, à Neuville, qui nous avait coûté la place en finale.
C'est un peu votre bête noire, Neuville, hein ?
C'est pas notre bête noire, c'est la bête noire de tous les clubs, déjà. Ouais. Parce qu'ils ont, ils ont une surface particulière que d'autres clubs ont, mais c'est une surface en béton, donc c'est particulier à jouer. On y est habitué, mais après, sur des surfaces rapides comme ça, avec une très bonne équipe de Neuville, il faut, faut être bon pendant les quatre périodes, tout simplement. Donc ça, voilà, ça ne pardonne pas.
Parce que le revêtement que vous, vous avez, ce n'est pas le même alors ?
Non, c'est un revêtement type clapissette, beaucoup plus tendre. Mmh. Donc on joue différemment sur ces deux types de surfaces.
Donc c'est plus compliqué d'aller jouer des équipes qui ont ce type de
revêtement. Quand elles sont bonnes, oui.
Ouais, en l'occurrence Neuville, parce que Neuville donc, n'a pas été champion de France l'an dernier, mais ils n'ont pas gagné la Coupe de France.
Si, ils ont pris la Coupe de France.
Et voilà, donc c'est quand même une équipe dangereuse.
Tout à fait. De toute manière, il y a de très bonnes équipes en Élite 1. Voilà, après, les équipes qui vont être vraiment à battre pour nous, ça va être les formations de Camaré cette année, qui a perdu ce week-end que 3-1 à 3, justement, dans l'Aube. L'équipe de Troyes avec leur russe et leur allemand, un joueur russe, un joueur allemand, internationaux tous les deux évidemment, et voilà, et puis l'équipe de Neuville, donc ça augure d'un très bon, championnat.
En élite 1, combien de clubs
8 équipes en élite 1 et 8 équipes en élite 2.
Et après les montées, les descentes, comment ça se fait?
Normalement le premier monte et le dernier descend, quoi, théoriquement.
Et donc cette année, qui est descendu?
Cette année, c'était un peu exceptionnel. Il n'y a pas eu de descente. Il y a eu deux montées, par contre. Parce qu'on a voulu, la fédération a voulu équilibrer les deux divisions. Donc c'est Robion qui est monté. Et en fait, Oulgat qui n'est pas descendu. En fait, il y a eu une montée et pas de descente.
Ah oui, donc ça a augmenté le nombre d'équipes en élite 1. Donc, à la fin de la saison, vous êtes devenu champion de France. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs pour la prochaine saison ? C'est bon, on a gagné
Non, je leur ai dit de continuer à travailler. Voilà,
parce que ce n'était pas prévu de gagner, tu disais. Donc, quand vous arrivez, vous êtes champion de France, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Oh si, on a d'autres objectifs. Il y a la Coupe qui pourrait être un objectif cette année, puisque on a gagné Oulgat à l'aller au retour en cadrage. On est en quart de finale de Coupe de France contre Bolène. Puis après, il reste les demi-finales et peut-être la finale. Donc, ça peut être un objectif pour nous, en tout cas. Voilà. C'est un trophée à aller chercher pour nous, en tout cas.
Voilà, donc la saison 2017 est terminée. Vous êtes champion de France. Début 2018, premier match perdu contre Neuville. Donc, une défaite 6-2. Attendue, cette défaite ?
Je peux pas dire que je m'y attendais pas. Voilà, je connais les compétiteurs que sont le club de Neuville et surtout cette équipe de Neuville. Il y a des joueurs internationaux comme dans mon équipe, donc je sais très bien qu'ils ont une culture de la gagne et qu'ils n'allaient pas s'arrêter sur les deux défaites qu'ils ont eues la saison dernière. Donc je savais qu'ils allaient préparer ce match, ce qu'ils ont fait. Ils ont bien préparé le match, ils ont adapté leur jeu à notre jeu très intelligemment. Et nous, on n'a malheureusement pas été au niveau sur les deux premières périodes. Donc après, ça a été très compliqué. Et là-bas, dès qu'ils ont enclenché la machine sur leur terrain, c'est compliqué de revenir.
Donc la première défaite donc, contre Neuville. Le prochain match, c'est contre Troyes.
Voilà, on a...
Donc là aussi, c'est également un match difficile.
C'est un très gros match pour nous, ouais. Je vais dire que ça va être peut-être à domicile avec la réception de Neuville, mais ça va être un des deux, trois plus gros matchs de la saison. Là.
Et comment on se prépare pour de tels matchs? Parce que tu disais, l'an dernier, on a tout gagné. Les équipes qu'on a gagnées se sont préparées. Ils ont essayé de voir notre stratégie. Donc, quand tu vas arriver chez eux ou quand elles vont arriver chez toi, elles vont connaître ton jeu. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de gagner.
C'est jamais évident, c'est ça qui fait la beauté du motoball. C'est jamais évident et après, il faut sans cesse être à la recherche de nouvelles phases, de travailler, de continuer à s'entraîner, de progresser, de performer. Voilà. Il faut effectivement toujours continuer à progresser.
Et comment vous préparez ce type de rencontre? C'est vrai qu'une rencontre contre un petit nouveau qui vient d'arriver comme le dernier monté, bon... C'est vrai que ça se prépare quand même de manière sérieuse, mais quand tu as Neuville 3, comme tu disais, ils sont bien chargés en termes d'efficacité, comment ça se prépare? Ça se prépare différemment?
Oui, c'est des matchs. Chaque match prépare fonction de l'équipe qu'on va rencontrer, tout simplement.
Vous les voyez en vidéo? Comment ça se passe?
Ça peut être de la vidéo, mais c'est assez rare. Après, c'est plus un aspect, on va dire... par rapport à ce qu'on a vu sur la saison, quand on a pu se déplacer sur certains matchs, les voir jouer. S'ils ont recruté quelqu'un, on sait que le jeu va s'orienter un peu différemment. On écoute beaucoup les équipes qui ont été jouées contre eux, qui ont déjà joué. Voilà, on s'adapte par rapport à ça.
Mais là, c'est compliqué, c'est en début de saison.
Ouais,
vous avez joué combien de matchs?
On a déjà des retours parce qu'ils ont fait pas mal de matchs. Les deux équipes, Neuville et Troyes, ont fait beaucoup de matchs amicaux. Ils ont déjà joué en Coupe de France, ils ont déjà fait une première journée de championnat. Donc on a déjà quelques retours.
Parce que là, le championnat a commencé il y a quoi? Il y a deux matchs?
Pour nous, c'était le premier match.
Oui, pour vous, c'était le premier match.
Enfin, nous, on a déjà rencontré Oulgat en Coupe de France et premier match de championnat contre Neuville.
Parce qu'il y a deux championnats en parallèle, la Coupe de France et le championnat de France.
Ah oui.
Premier match, donc, championnat de France contre Neuville. Et en Coupe de France, c'était contre
Oulgat.
Normandie. Et là, pour l'instant, au niveau du championnat, c'est un petit peu difficile. Troyes, c'est le week-end prochain?
Troyes, c'est samedi prochain à 19h, Stade René-Pons, ouais, tout à fait.
Donc à domicile?
À domicile, chez nous.
Vous les ressentez comment, Troyes? Comme tu me disais, vous les craignez quand même un petit peu. C'est par rapport au recrutement qu'ils ont eu?
Ouais, le recrutement, ouais, ils ont recruté Holger Schmidt, qui est un international de renom allemand. Après voilà, ils sont pas chez eux, ils sont chez nous. Donc on les attend de pied ferme.
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on espère, bien sûr, la victoire. Donc samedi prochain au stade,
19h,
début du match. Donc vaut mieux arriver un petit peu plus tôt.
On attend du monde, donc ouais, il vaut mieux arriver vers 18h30.
Les champions de France en titre qui jouent sur leur terrain, forcément ça va amasser du monde, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Merci
Christophe,
à vous, merci RTVFM encore.
D'avoir accepté notre invitation. Écoute, c'est toujours un très très grand plaisir. Le motoball, beaucoup de gens ne le connaissent pas. La preuve, hein, Damien et Cédic ne le connaissaient pas. J'espère que, messieurs, vous avez appris sur le motoball.
Tout à fait.
C'est pas mal. Ouais.
Mais comme Christophe a un rendez-vous, donc on va le laisser partir. Nous, on va se retrouver juste après la pause musicale pour parler de trail. Alors, c'est de la course à pied. Et peut-être qu'Alexandre aura sa réponse. Allez, à tout de suite.
Caméléon. Tú que quieres, loca, suelta veneno. Yo no quiero saber nada contigo. Toma, no, 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 no. Aquí el cama. No, 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 no. Y que conmigo no puede. Te viene con su rollo. Para seducirte saca las curvas que te enamoran. No te desviste porque te lleva hasta el engaño.
Déjame, nena. que te consuela cada vez que lloras. Así que ya sabes.
Avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Quelle entrée en matière, Bruno, hein, parce que c'est vrai que vous ne le voyez pas, mais Bruno, franchement,
un des plus grands médias.
Ah là là. Ah là. Il maîtrise son domaine maintenant.
Incroyable. C'est impressionnant. Il est devenu professionnel.
Ah, mais exactement. Totalement. Hein. Bon. Par contre, le studio s'est vite libéré. On a gardé le meilleur. Non, je rigole. Mais en tout cas, c'est Dick qui est resté avec nous. Damien et Christophe avaient malheureusement deux rendez-vous tous les deux. Donc, bon, ils sont pas partis, ils sont partis ensemble, mais pas au même endroit. Donc, c'est Dick, tu restes avec nous. Mais par contre, on est très content.
Moi aussi.
Que tu sois resté avec nous.
Je suis ravi d'être là.
Voilà. Alors, juste avant de parler de trail, je voudrais qu'on parle d'un sujet parce qu'il y a eu une grosse polémique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ce week-end concernant la Coupe Davis. Parce que la Coupe Davis, en fait, je vous rappelle le principe et puis Alexandre rentrera un peu plus en détail. C'est que la Coupe Davis, c'est la Coupe du Monde, on va dire, championnat du monde avec les pays qui se rencontrent sur un week-end, plusieurs matchs. Et ça se fait sur à peu près 4-5 mois, je pense.
Ouais, sur quasiment toute la saison même.
Sur toute la saison. Et le nouveau président de la Fédération internationale de tennis a décidé que la Coupe Davis, à partir, je crois, de 2019, ne se ferait plus que sur une semaine.
Oui, voilà, c'est une idée de réforme de la Fédération qui n'a pas du tout été validée par l'ensemble des tennisman professionnels, notamment côté français. On a eu... Donc moi, j'ai recueilli un témoignage de Lucas Pouille qui en a parlé auprès de l'équipe et qui a donc expliqué qu'il a eu une idée et qu'il a été d'organiser une réunion entre joueurs réunis en même endroit à Madrid, soit à Monte Carlo, voire même Roland Garros. Et apparemment, il a envie d'avoir la vie de tout le monde et de savoir qu'il faut faire quelque chose, quoi. Ils veulent faire quelque chose. Et tout le monde dit que c'est une erreur, ce que je comprends pas forcément. Mais
disons que c'est le principe même de la Coupe Davis, que ça se fasse sur plusieurs matchs. Il y a des simples, il y a des matchs en double. Là, oui. Le problème, c'est que ça va se faire. Les joueurs vont enquiller leur match sur une semaine. En plus, ce sont des joueurs professionnels,
oui,
qui
vrai.
Ont leur championnat régulier. Ils oui. partent régulièrement dans des pays autres. Donc, il faut que ça tombe au bon moment. Mais en tout cas, comme tu disais, Lucas Pouille, lui, il a dit si ça se fait de cette manière-là, moi, j'arrête d'être en équipe de France. Ce qui est un petit peu surprenant, c'est le silence de Noah, qui lui est également contre.
Mais lorsqu'il était, en général, hein.
Oui,
on n'a pas trop parlé. Hein.
Certains lui reprochent de pas s'être exprimé justement face au président qui était présent lors de la Coupe Davis qui a eu lieu ce week-end. Mm-hmm. Et donc c'est une affaire à suivre, mais qui est un peu inquiétante parce que le principe même de la Coupe Davis, c'était faire une sorte de championnat sur l'année complète avec des rencontres dans différents pays. Là, ça veut dire qu'ils vont bloquer sur un terrain neutre, dans un pays neutre, je pense.
Ouais, ils veulent faire une vraie coupe.
Voilà, une coupe.
Une coupe vraiment comme, un peu, comme au foot, au rugby.
Ouais, sauf que ça va durer qu'une semaine.
Comme un championnat classique.
Voilà.
Donc, après, alors ça, c'est une bonne idée, mais après, le faire que sur une semaine, ce serait pas. S'ils font ça sur la durée, plus de la durée d'un tournoi. Je crois qu'un tournoi, en vrai, ça dure une semaine, je crois, c'est ça en plus. Hein. Une semaine, deux semaines.
Voire plus.
Oui, voire plus. Si à la limite, on fait ça pendant certaines grandes compétitions, ou au contraire, quand il n'y a pas de tournoi de grand chelem, pendant un certain temps, quand ils font des pauses, bah, à ce moment-là, on organise la Coupe Davis. Ce serait. D'un côté, c'est plus logique parce que peut-être que les gens s'y retrouveraient mieux. Peut-être que même dans la fédération, ils s'y retrouveraient mieux. Mais bon, après, c'est sûr que sur le principe, ça casse le mythe de la Coupe Davis.
Non, mais une question simple. Le tournoi destination, tu le vois sur une semaine ?
Non, bah non. Mais après, c'est pas pareil.
Ah, pourquoi ?
Après, c'est pas pareil. Bah non, mais c'est pas pareil.
Si. Ah, bah ouais.
Parce que les tennisman, quand ils ont une compétition, tu auras Roland Garros, ils jouent tous les deux jours. Un joueur de rugby, il va pas jouer tous les deux jours. Il a pas la condition physique, surtout vu le nombre de coups qu'il prend par match, il va pas pouvoir jouer des matchs toute la semaine.
Oui. Mais c'est vrai que
même un joueur de tennis, il pourra pas jouer toute la semaine. Mais c'est vrai que
bah justement,
si tu mets la compétition sur un mois ou trois semaines, là, les équipes, elles auraient le temps de se reposer, elles auraient le temps de jouer leur match, et là, ça peut passer.
Bah, là, en l'occurrence, c'est ce qui se passait, c'est-à-dire que la Coupe Davis. Je sais pas si c'est dit que tu suis un petit peu la Coupe Davis.
Pas
trop.
De très loin.
Mais en fait, voilà, la compétition commence le vendredi, se termine le dimanche. T'as des simples. T'as des doubles, ils sont donc je crois 4 ou 5 joueurs par pays, et ensuite bah, voilà, ils jouent pendant ces 3 jours, et ensuite ils peuvent faire leur match de professionnel.
Après, s'ils réforment la Coupe Davis, il faut qu'ils réforment vraiment la Coupe Davis en elle-même, s'ils veulent faire ça. C'est-à-dire que c'est sûr que le système de la Coupe Davis, il n'est pas cohérent par rapport à ce qu'ils mettent en place. Donc à la limite, soit ils changent tout, et à la limite la Coupe Davis, ils en refont une nouvelle coupe, une nouvelle
un nouveau format
comme il y a eu la Coupe d'Europe il y a quelques années de rugby qui a changé, qui est devenu l'European Champions Cup. Bah c'est pareil, hein, sauf que c'est juste quelques trucs qui changent. S'ils font ça pour le tennis et que là il y a cette réforme là, mais qu'ils adaptent un peu en fonction pour que les tennismen puissent se reposer et en même temps jouer leur match. Pas.
Après, l'autre aspect qui incite les joueurs à dire non, on est contre, c'est par rapport à la convivialité. Souvent, ça draine, on va dire, un enthousiasme énorme, le fait justement d'organiser, ben voilà, la Coupe de Davis, elle a commencé, on est en demi-finale, on va jouer le mois prochain, mais voilà, ça crée une sorte d'émulation et festif. Quand on voit à l'époque où Noah avait gagné, ça avait été une fête pas possible. Là, le faire sur une semaine bloquée, je pense qu'on va totalement inhiber justement cet esprit festif et on va rentrer dans une compétition,
c'est pour ça
tournoi comme le tournoi de Roland-Garros, comme le tournoi de Wimbledon, et puis ça va perdre de son charme.
Oui, je suis d'accord, c'est pour ça qu'à la limite, il faudrait faire une vraie compétition qui dure plus longtemps, et s'ils font une réforme où ils veulent que ça dure moins que toute la saison, qu'ils prennent un mois et qu'ils disent voilà, ce mois-là, on fait la Coupe Davis, et c'est tout. Genre la Coupe. Au foot, ils se prennent pas la tête. En juin, ils arrivent, ils font la Coupe du Monde, ils font la Coupe d'Europe, ils font leur truc. Au rugby, ils attendent septembre aussi pour faire la Coupe du Monde et ils ont des périodes. Si au tennis, ils organiseraient une période, des trêves, s'ils faisaient un truc vrai, un truc propre et clair, je pense que tout le monde s'y retrouverait mieux. Soit ils réforment tout, soit ils réforment rien. Tu peux pas modifier qu'un truc dans une stratégie aussi ciblée.
Après, la question qu'il faut se poser, il faut inverser la question. Pourquoi ils veulent changer ?
Oui, c'est exactement ça la question, tu as raison.
Pourquoi ils veulent changer ?
Qu'est-ce qui motive le changement ?
Voilà. Ça, c'est les fédérations, ça. Hein.
C'est ça. Ou bien, est-ce que c'est comme l'Eurovision ? C'est-à-dire que l'Eurovision, le pays qui organise l'Eurovision, c'est le pays qui a gagné l'année d'avant. Mais le problème, c'est que ça coûte tellement cher qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas gagner. Parce que l'organisation coûte très cher. Est-ce que là, c'est le cas ? Et à ce moment-là, oui, on se dit l'organisation de la Coupe Davis coûte très cher et donc à ce moment-là, bah nous, on n'a pas forcément envie de l'organiser. Le président de la Fédération internationale dit bah « Moi, je suis désolé, je ne trouve plus de pays pour accueillir la Coupe Davis. » On peut entendre cette argumentation-là.
Oui.
Mais ce n'est pas cette argumentation qui est avancée.
Oui, mais après, comme je t'ai dit, c'est soit ils changent, soit ils font une réforme claire et précise, soit ils font pas de réforme tout court. Je vois pas l'intérêt de changer une règle dans toute une compétition. C'est parce que justement, si tu vas changer une règle, la règle, elle va changer, la compétition, elle va perdre tout son sens. Donc soit ils changent tout et ils font vraiment un nouveau format, quelque chose de beaucoup plus structuré.
Oui, mais change de nom.
Et à ce moment-là, mais à la limite, si oui, à la limite,
faut changer de nom.
Tu changes de nom, tu dis The Davis Cup au lieu de la Coupe Davis, tu vois. Non, mais vraiment, non, mais le championnat Davis, vraiment un truc, ils vont sortir un truc, un nom, ça on s'en fout. Mais juste ce qu'on veut, c'est un format clair. Je pense que les gens, si tu leur mets une compétition de tennis, c'est sûr qu'un Roland-Garros, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Par contre, si tu leur mets un truc qui ressemble un peu comme la Coupe du Monde et que ça joue et que tu vois que bah, sur un mois, il y a de la progression et que l'équipe marche bien, bah, je pense que ça peut attirer tout le monde et ça peut même...
Je suis pas convaincu parce que déjà, tu as du mal à mobiliser les joueurs à jouer en équipe nationale. On l'a bien vu au JO, hein, tu as bien suivi la polémique qu'il y a eu par rapport à ça.
Nous, on est spécialisés dans les polémiques en France.
Voilà, mais bon, voilà, l'équipe nationale n'a plus, on va dire, de joueurs. On va dire, il n'y a plus de joueurs qui veulent jouer en équipe nationale. Donc déjà, c'est un problème. Si en plus, tu la rends moins intéressante. Mais bon, on suivra un petit peu cette réforme, voir si ça évolue, parce que je pense que les langues vont continuer à se délier, parce que ça a commencé à revenir sur le tapis ce week-end, on verra ce que ça donne.
On va apprendre des choses dans la semaine.
Allez, on fait une petite pause avec, je crois que c'est Ed Sheeran, et après on parle de la Gogaline.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song when you say. Whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I'm
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Donc après cette petite intermède musicale, Ed Sheeran, qui ne fait pas trop partie du registre de Alexandre, quoique juste avant je t'avais fait plaisir, hein, parce qu'au tout début il y avait Bigflo et Oli.
Oui, alors c'est pas la meilleure qu'ils aient faite.
Non,
mais elle est bien. Ouais. Elle est bien, mais je t'en trouverai une pour la...
redire,
non, mais je t'en trouverai une quand je reviendrai.
Bon, est-ce que ça t'a plu, Cédric, les musiques?
Très très bien.
Bon,
oui,
tant mieux.
Impeccable.
On te réinvitera.
Merci, et je reviendrai avec plaisir.
Bon, parlons de la Gogaline. Alors, avant de parler de la Gogaline, quand même, j'ai posé une question à Alexandre sur le trail. C'était quoi le trail?
Oui, et j'avais répondu que c'était de la course.
Et est-ce que c'est une réponse complète
course à pied en tout terrain?
Plus, ouais, voilà. Du coup, la course plutôt tout terrain.
Parce que c'est vrai qu'il y a maintenant de dénominations commerciales.
Il y a trop de.
Parce qu'il y a le cross-country. Il y a course, on va dire le marathon, il y a tellement de courses, tellement de types de courses que c'est vrai que le trail, est-ce que c'est de la randonnée? Est-ce que c'est de la course, comme tu disais, en campagne? Alors, Cédric, c'est quoi?
Est-ce que je peux donner une définition de ce que c'est que le trail? Ça serait assez complexe en fait. Certains te parleront même d'un esprit trail. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va essayer de... c'est plus la pratique de la course à pied. En même temps, quand tu te prends du dénivelé, les meilleurs courent. Mais moi, comme plein d'autres, on va plutôt essayer de s'en sortir en essayant de marcher le plus rapidement possible avant de prendre la descente et essayer de descendre le mieux possible. Donc c'est plutôt un lien avec la nature, je dirais, davantage. En tout cas, c'est ma conception. Hein. D'autres te diront autre chose. C'est cette pratique donc, de la course à pied, tout en étant à l'extérieur, profiter de ce que la nature nous offre, en fait. C'est croiser un renard et quelques mètres plus tard, au bout d'un quart d'heure, un sanglier aussi. Donc tu ne l'as pas en ville, tu l'as pas sur route, tu l'as pas sur un marathon, tu peux l'avoir que sur du trail.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même c'est la discipline qui est où les épreuves sont les plus longues. En course à pied sur du béton, on va dire le maximum c'est les 100 km. Souvent.
Oui.
En trail, on peut monter à 180.
Oui, mais là on est sur des formats ultra trail avec une autre là aussi
mais
une
discipline. Seules disciplines.
Oui,
qui font ça.
Oui. Sachant que l'homme, j'ai envie de dire, c'est l'animal le plus endurant et il peut courir longtemps et loin et très vite.
Mais oui, c'est sûr. Mais tu vois, un marathon, quand on parle de marathon, souvent, on dit c'est vraiment l'épreuve suprême.
Oui.
J'ai fait un marathon, je suis content, j'ai fait mon marathon. Et toutes les personnes que nous, on peut même accueillir ici, il y en a un que je salue, c'est Stéphane Mallet qui est un habitué justement que tu dois connaître, qui court, qui fait, il a fait le trail du Paty il y a deux semaines.
Il y a deux semaines, oui.
Voilà, donc c'est un gros coureur. Quand il te parle du marathon, je suis content, j'ai fait mon marathon et tu vois quand même une certaine satisfaction. Quand tu vois les ultra-trails à 180 km, tu te dis pas, putain, c'est super, j'ai fait mon 180 km. Alors que, c'est pas tellement 4 fois plus.
À mon avis, celui qui l'a fait, il doit se le dire quand même. Hein.
Ouais, mais.
Je pense aussi.
Ouais. Mais pas autant qu'un marathonien. Et regarde, même le marathon de New York ou de Paris, médiatisé, alors que le trail, non.
C'est là où l'essor aujourd'hui qu'on rencontre du trail depuis à peu près, on va dire, le boom, ça fait 5 ans. Hein, ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais le boom, c'est il y a à peine 5 ans. C'est que beaucoup sont sortis de la pratique chronométrée, la rigueur en fait de la piste, et puis des allures à tenir sur un semi ou sur un 10 ou sur un marathon, pour aller sur quelque chose d'un peu plus libre, voire libre, totalement libre. Oui, il y a plein d'épreuves où il y a un chronométrage, mais bon, il y a des barrières horaires pour éviter que les personnes se trouvent seules, paumées et ne plus pouvoir redescendre parce qu'il fait nuit. Mais en dehors de cela, c'est vraiment cette conception de la course à pied dans un environnement sain, libre.
Sauvage.
Sauvage, où chacun, quelque part, va aussi... certains vont lutter contre un chrono, mais beaucoup vont aller chercher aussi... peut-être une réalisation de soi. Je l'ouvre comme ça d'une façon très large.
Toi, à l'origine, tu étais quoi comme coureur? Un coureur de trail ou plutôt de semi-fond, fond?
Plutôt fond. Depuis longtemps, j'ai toujours aimé courir, en fait. Et mon vécu, ma trajectoire personnelle, en fait que j'ai le cross. Enfin, voilà, c'est...
Toi, tu étais plutôt dans le cross?
La nature.
Donc, pour toi, le trail, c'était vraiment l'orientation à prendre?
Oui. Courir sur route, c'est chouette. Mais quand je suis en déplacement et que j'ai pas le choix.
Alors, pour le trail, justement, comme tu disais, c'est des courses en pleine nature.
Oui.
Au niveau du balisage, comment ça se passe? C'est-à-dire que... Parce que c'est pas évident de baliser un trail.
Alors, bah justement, là, sur le parcours, nos parcours sur la Gogaline. Mais avant ça, j'ai une petite surprise, en fait, pour Alexandre.
Oui,
avant d'aller sur les balisages. Ce que je lui propose, c'est que le 22, on prévoit cette année une initiation au trail.
Ah.
Avec Sandra Martin, qui sera donc là pour... expliquer sa vision justement et sa conception du trail et puis donner quelques conseils à ceux qui voudraient venir donc faire une petite boucle de à peu près 6 km entre 5 et 6. On est en train de finaliser un petit peu le parcours, donc on n'a pas la distance exacte, mais ça dépassera pas les 6 km où on sera vraiment sur cette notion donc de partager pour ceux qui veulent découvrir c'est quoi le trail au juste. Voilà, si t'es partant le 22 à
9h45. Non, je sais pas, non, parce que
ça fait un peu tôt pour
non,
toi,
parce que
peut-être
quand je pars en
dimanche
Espagne,
matin.
Quand je pars en Espagne lundi, je sais plus exactement quand je rentre. Et donc,
bon, on va s'enseigner.
Je vais m'enseigner quand je rentre.
Mais c'est vrai que ça sera l'occasion justement
pourquoi pas,
d'essayer.
Ouais.
Après,
si
c'est
je suis
un
là,
petit parcours.
Pas.
C'est un petit parcours.
C'est ça.
En tout cas, c'est vrai que c'est sympa pour l'invitation.
Oui,
ouais, merci.
Qui n'est pas chronométré. On revient, en fait, l'idée quelque part de l'équipe, lorsqu'on a réfléchi à ça, c'est de dire, tiens, on essaie de revenir aux sources du trail. Parce qu'à la base, c'était ça, des bandes d'individus qui disent, tiens, allez, bande de potes, on va aller de tel endroit, on y va. Et puis l'année d'après, on se retrouve avec d'autres personnes et on refait la même chose. Donc c'est cet esprit-là, à la base, qui fait que. Maintenant, pour le balisage, on essaye d'être le... Il y a une règle de base, c'est de faire en sorte à rendre à la nature le terrain tel qu'il était initialement. Et on essaie de faire un maximum attention là-dessus.
Donc un très très gros respect de la nature.
De la nature, de façon à pouvoir continuer à en profiter, ça ne nous appartient pas en fait. Quelque part, les sangliers nous autorisent ce jour-là de passer, puis il faut leur restituer leur terrain de vie. Nous, c'est un terrain de jeu. La nature, ou les autres animaux, c'est leur terrain de vie. Donc, on essaye de faire en sorte à ce que le balisage donc, soit... D'ailleurs, on débalise tout de suite après. On a une équipe qui part direct après, une fois que les derniers sont rentrés. Donc, elle part pour tout enlever. Généralement, on indique donc avec soit des fiches cartonnées en couleur ou de la rubalise pour chantier qui est la plus adaptée en fait parce qu'elle est visible de loin.
Et, oui.
Et globalement, c'est tous les 150 mètres à peu près qu'on met une petite rubalise de façon à ce que les concurrents puissent arriver à bon port et puis profiter de leur circuit. Avec toujours l'idée d'être le plus bas possible, parce que quand on court, on peut avoir aussi, selon l'état de fatigue, selon la pente, avoir tendance à regarder en bas.
Et par contre, plus il y a de coureurs, plus le balisage est important. Et à la Gogaline, il est très important, parce que je crois que l'an dernier, vous avez passé le seuil des 300-400.
C'est ça. L'année dernière, on a fait les 400 personnes. On espère cette année faire au moins la même chose, si ce n'est plus. Mais là, la tendance est plutôt... on est parti pour atteindre notre objectif. Donc, la règle est la même, en fait, qu'on fasse partir 5 personnes ou 100. On essaie de faire en sorte à ce que les participants puissent vraiment profiter du parcours. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir un chouette parcours.
Bon.
J'en ai fait un petit paquet des trails. Certains sont super chouettes, d'autres un peu moins. Mais celui-là, c'est pas du chauvinisme.
Mais ça, j'en suis convaincu. Oui. Et on fait la petite pause, la dernière de l'émission. Et ensuite, on en reparle parce qu'il y a un site internet avec des photos magnifiques réalisées par
Damien. Oui.
Et je peux vous dire, ça donne envie d'y goûter. Allez, à tout de suite.
Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just being you.
Light it up on the run. Let's make
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, après cette petite pause musicale, Sia, hein, une bonne musique pour entamer la dernière partie de l'émission. Et oui, c'est déjà la dernière partie de l'émission.
C'est passé vite. Hein.
Bah oui, bah quand on est avec des invités intéressants.
Et, oui,
et comme on est toujours avec des invités intéressants, bah, le temps passe trop vite.
Tout le temps.
Et mais bon, on va aller au plus vite. Donc,
merci.
La Gogaline, pourquoi oui. l'avoir appelée la Gogaline?
Vincent aurait pu expliquer si je le sais très mais avec un peu plus de peut-être de rondeur que moi. Le Gao en provençal, c'est le coq. C'est le coq qui court après donc la poule. Et initialement, l'idée, c'était ça, en fait. La Gogaline, elle a démarré lorsqu'il y a 13 ans de cela, où la course à pied n'était pas aussi répandue, en tout cas la participation féminine n'était pas aussi élevée. Hein, là on le voit sur les épreuves, on a grosso modo c'est presque, on est sur du 50-50, sur, notamment sur le 12, à peu près 50% de l'effectif, voire 40%, allez, oui, plutôt 40% de l'effectif, ce sont des femmes, ce qui est très bien. Et donc du coup le concept vient de là, et ça remonte à plus de 13 ans.
Donc là c'est quelle édition ?
Là, c'est la 13e édition pour le 12 km, ce qu'on appelle la foulée. Et maintenant, c'est notre 3e édition, donc notre 3e édition du 25, qui fait 25-500. C'est notre 3e édition.
Donc, si j'ai bien compris, oui, il y a deux parcours type, le 12,
c'est
et
ça.
Et le 25. 5.
Oui.
Voilà, donc ça, ce sont les deux courses mythiques de la Gogaline.
Exact.
Est-ce qu'il y a des nouveautés ?
Alors la nouveauté, c'est ce que j'expliquais à Alexandre. Donc cette année, on met en place donc cette initiation avec les 5 à 6 kilomètres, avec une présentation avant, un échange avec Sandra Martin qui a accepté donc de venir.
Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Sandra Martin, tu peux la décrire en quelques
mots ? Sandra Martin, championne de France il y a 2 ans en trail. Donc son palmarès, il est
énorme.
Donc
on est encadré par une personne qui est vraiment très compétente dans le domaine.
Qui est très compétente dans le domaine, oui. Et qui se fait une joie de partager ça, sa passion, c'est surtout ça, c'est son attachement au territoire, puis la valeur de cette liberté chère à tous lorsqu'on est coureur.
Alors, comment on fait pour s'inscrire ?
Pour s'inscrire, on a donc notre site foulegogaline.fr, sinon Nicrom, notre Facebook sur lequel donc on peut aussi foulegogaline et on y est.
Parce que c'est plus intéressant de s'inscrire maintenant plutôt que le jour même. Hein.
Alors, tout à fait.
Avec le risque peut-être qu'il n'y ait pas de place. Les places sont limitées ou pas ?
Nous sommes limités et on ne doit pas dépasser les 500 personnes.
Et j'ai cru comprendre que c'était bien parti.
C'est plutôt bien parti. Si la tendance continue telle que c'est le cas, on devrait atteindre cet objectif-là. On est limité parce qu'on a des contraintes réglementaires où on ne doit pas dépasser un effectif. Après, ça passe sur une autre forme d'organisation qu'on envisagera probablement l'année prochaine.
Ah oui, donc c'est manqué. Et puis vous avez un parrain de marque aussi.
Et on a un parrain de marque, effectivement. J'allais y venir, effectivement. Benoît qui nous suit et qui nous soutient dans cette démarche-là.
Bah, il a gagné la Gogaline l'an dernier.
Et il a gagné la Gogaline l'année dernière. Et puis il remet cette année donc son trophée en jeu. Ça va être une belle compétition aussi.
Les enfants peuvent s'inscrire ?
Oui, on a une course enfant également, donc qui fait à peu près 800 mètres. Et les enfants peuvent s'inscrire le jour même directement.
Voilà, eux, ils ne sont pas obligés de s'inscrire par l'intermédiaire du site.
Il n'y a pas d'inscription par le site, ça se fait directement sur place.
Pour l'initiation, c'est la même chose ?
Pour l'initiation, c'est la même chose. Et un élément important qu'on garde et sur lequel je tiens aussi à communiquer, c'est qu'on a aussi, c'est une course solidaire. 1 euro par inscrit est reversé à l'association HD Le Plaisir qui vient en soutien et en aide aux enfants malades.
Et ça, c'est vraiment très très important et tu as raison de le souligner. Donc Vincent Néron, malheureusement, n'était pas là ce soir, mais il m'a dit je t'envoie les deux meilleurs éléments et il n'a pas eu tort. Hein, c'est vraiment les deux meilleurs éléments. En tout cas,
Cédric,
merci beaucoup, hein, beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi.
C'était un grand plaisir.
Merci à vous tous.
On va sauter un gros mot pour cette édition et puis on aura l'occasion de faire un petit débriefing.
Ça sera avec un grand plaisir.
Merci à Alexandre.
Merci à toi Lionel.
Merci mon petit Bono. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de karting justement. Allez, bonne semaine sportive à tous et à toutes.